Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission du Cercle Laïque. Et il y a dans ce studio Jean-Pierre Dubreuil et René Robinet, puisque le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la poésie. La poésie au Cercle Laïque, c'est quelque chose d'important.
Oui. Je crois pouvoir dire que grâce à la présence au Cercle de René Robinet, nous avons mis là en marche une activité d'une importance qu'on n'imaginait pas au départ et qui se révèle de plus en plus grande. Le nombre de gens qui, en fin de compte, s'intéressent à la poésie, eh bien, est beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Alors donc, depuis maintenant 7 ans révolus, René anime ce qu'on appelle des cafés poésie.
Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des cafés poésie. Et oui, puis d'autres choses, entre autres.
Voilà, non, de l'implication du cercle pour la poésie.
Voilà. Hein? Alors, il y a les cafés poésie. Comment ça se passe, un café poésie?
Alors, bon, ça peut surprendre, ça ne se passe pas dans un café, sauf exception. Hein. Ça se passe au cercle, dans une salle qui est aménagée, de manière à donner un petit air agréable. La salle est animée avec des photos et des textes sur les poètes qui ont été vus, pas tous à chaque fois, hein, puisque en tout, on calculait que ça faisait une 30aine de poètes qui avaient été présentés. Alors donc, dans cette ambiance, eh bien, quand les gens arrivent, on leur offre un petit café, un thé, des petits gâteaux. Ensuite, pendant une demi-heure, René présente un texte très écrit, très fouillé, très vivant, sur le poète qui fait l'objet de la journée. Ensuite, ben, enfin, encore un petit break. Possibilité d'un petit café, d'un petit thé, de petits gâteaux. Et puis ensuite, une demi-heure de lecture libre. Soit les gens qui participent amènent des poèmes qu'ils aiment particulièrement et qu'ils lisent, soit des poèmes qu'ils ont eux-mêmes écrits, c'est plus qu'on croit, et certains d'ailleurs de grande qualité. Ou bien, eh bien, peuvent lire des poèmes qui ont été laissés sur les petites tables par les soins de René.
On attache beaucoup d'importance aux lectures libres, parce que ça permet à des gens, à des jeunes en principe, et pas uniquement, ça permet à des gens qui écrivent et qui n'osent pas trop rencontrer le public, et d'ailleurs, où ? Et là, ils viennent et ils peuvent lire leurs textes. Et c'est généralement très, très positif parce que ça leur donne de l'assurance. Et par-dessus une marche, je dois dire que des gens qui écrivent, il y en a plus qu'on le croit, car finalement, il y en a au moins 4 ou 5 là, au cercle, hein, dont des gens qui ne sont pas inintéressants. Une personne dont je ne connais pas le nom, mais qui signe Antamania. Antamania va être à la Rose des Vents en février. Là. Elle y a déjà été. Ils sont trois, elle est allemande. Ils lisent en français et en allemand avec un musicien. Et elle a travaillé avec des gens que je connais comme Edith Azam. Et elle vient régulièrement à nos rencontres et elle participe régulièrement. Et puis il y a des gens qui n'en sont pas là, mais dont on sent qu'ils ont besoin d'écrire. Et il y en a un qui m'est envoyé par un atelier d'écriture. Hein. Et il y a un Tchadien, donc je ne sais pas d'où il sort, qui vient. Et souvent, on entend des choses intéressantes.
Donc des choses diverses et intéressantes, des gens qui viennent là pour à la fois écouter de la poésie, puis aussi peut-être proposer leur propre texte.
C'est Madeleine qui gère ça, qui gère les tours de table. Et c'est parce que ça demande quand même une gestion, finalement. Et ça, on a appris ça à la Maison de la Poésie à Avignon, en y participant à Avignon. Voir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire. En particulier, prévenir les gens tout de suite qui peuvent lire, mais pas plus de textes.
Alors, le café poésie se passe donc au cercle, mais il y a aussi, parfois, des séances qui se passent à l'extérieur, hein. D'accord, il y a eu des lectures au Petit Creux, il y en a eu à Groslu, là, à l'atelier à spectacle, à l'Arsenal. Et puis.
À l'Arsenal, en fonction de, peut-être d'un peintre qui est là ou
L'année dernière, c'était parce que on a parlé d'un auteur belge qui était le frère du peintre qui exposait. Hein, c'est Robert Guette qui était le frère de René Guette qui exposait. Cette année, j'avais pensé présenter François Cheng, parce que je disais que ce serait c'est un truc pas mal, quoi. Hein. Mais finalement, elle m'a demandé si par hasard, j'aurais pas plutôt quelque chose sur la poésie d'Herbert. Sur le moment, non, puis c'est du travail, j'ose pas. 48 heures après, je lui ai mis un mot, écoutez, je lui ai répondu un peu vite, les Berbères, oui, ça m'intéresse. Parce que je me suis rappelé très vite que j'avais fait un travail déjà, j'avais un très bon dossier sur les Berbères, Touareg, et il y a des tas de choses. De notre côté, l'Algérie est une... J'ai été intéressé par l'Algérie pour des tas de raisons. Et la poésie, le rapport des Kabyles avec le gouvernement, l'enseignement du berbère, etc. Bon, et puis je sais qu'il y avait des choses intéressantes sur l'Atlas marocain. Donc j'ai dit oui. Et j'ai un... Tu ne l'as pas encore. Vous allez l'avoir. C'est pas encore, mais vous allez l'avoir. Là, il y en a quand même 30 pages. Voilà. Mais c'est passionnant.
Voilà.
Eh bien, et à l'occasion de Rachid Kimoun, non, puisqu'il va y avoir, l'exposition en lien avec cette exposition.
C'est à propos, donc, dans le cadre de l'exposition de Rachid Kimoun. Et j'ai d'ailleurs repêché des textes de Tahar Djaout, qui a été assassiné, bien entendu. Un texte de Djaout qui était critique d'art en Algérie et qui avait fait des critiques sur le travail de Rachid Kimoun, en particulier sur ce qui est exposé là, puisque c'est une rétrospective. Je vais le voir, d'ailleurs, il est là ce jour-ci, et je vais le voir en passage.
Enfin, on peut en profiter pour annoncer aux personnes qui seraient tentées par ce que vient d'en dire René, que ça aura lieu le dimanche 11 mars à 17h.
À 17h.
Voilà. Dimanche 11 mars à 17h à l'Arsenal.
Et tu verras, il y a des textes épatants.
J'en doute pas.
Donc, effectivement, le café poésie, quelquefois, s'extériorise et même prend une part importante dans la vie culturelle drouaise et même essentielle. Donc.
Radio Grand Ciel.
Alors, on a évoqué l'ambiance, on accueille les personnes, il y a les lectures. Comment vous les choisissez, les poètes ?
Suivant que je les aime, qu'ils me plaisent. J'ai attaqué la première fois le jour où Madeleine m'a dit tout compte, parce qu'il y a longtemps qu'on en parlait. Hein. Mais bon, puis un jour Madeleine m'a dit, tu sais, ton idée c'est pas mal, on devrait le faire. Et j'ai attaqué sur Yves Bonnefoy, parce que j'aime beaucoup Yves Bonnefoy, et parce que, en plus, c'est lié à des tas de souvenirs, parce que quand j'étais jeune, j'ai bien connu Yves Bonnefoy. Il était étudiant en maths et moi en anglais. On se voyait tous les jours et on parlait avec d'autres, hein. C'était un vrai groupe informel. Donc j'ai très bien connu Bonnefoy et c'est vrai que de ce groupe-là, je suis sorti de la lecture régulière de Musset ou de Vigny. Bon, c'est là.
C'est ce qui est déjà pas mal, René. Hein.
Oui.
Faut pas.
Oui, c'est sûr. Alors j'ai choisi parce que j'ai buté sur eux. Occasionnellement en cherchant autre chose et puis j'ai vu un texte, ça m'a plu ça, tiens, hein.
Et on tire un fil
c'est généralement de toute façon des auteurs, ce sont presque toujours de grands auteurs, hein, comme par hasard, et des auteurs dont la poésie fait sens dans la société dans laquelle on vit, des auteurs qui souvent ont joué un rôle important et des auteurs qui sont engagés, mais pas pour des raisons dogmatiques, hein, qui sont engagés pour des raisons plus directement humaines ou immédiates.
Mais je pourrais peut-être trahir un petit secret. René, par exemple, refuse de faire quelque chose sur Aragon, non pas qu'il n'aime pas sa poésie, mais il n'apprécie pas du tout certains comportements à certaines époques, en particulier le fait qu'il ait caché ce qu'il savait sur le stalinisme.
Entre autres, oui. En plus, je ne l'apprécie pas. Oui, d'accord. Mais sur le parlons poésie, je n'apprécie pas pour une chose simple, c'est qu'après la libération, Pendant l'occupation, les poètes ont eu poésie nationale, etc. Et tout, bon, on peut le comprendre. Mais après, Aragon, par exemple, on est resté là. Et 10 ans après, il refusait de publier ses airs, poésie libre, très marquée par le surréalisme. Il refusait de le publier parce que ce n'était pas de la poésie nationale. Qu'il n'écrivait pas, que, bon, en alexandrin, un peu rapide. Parce que Aragon, hein, bon, ma France aux yeux de Tourterelle, quand tu lis ça quelques années après, tu te dis que c'est une image. Donc, voilà.
C'est vrai que quelquefois les poètes sont quand même très inspirés aussi par l'environnement, par l'actualité, par. Ils disent des choses que les autres ne peuvent pas dire parce qu'ils emploient aussi un langage qui leur donne plus de liberté. Et ces poètes engagés, c'est peut-être ça aussi qui vous plaît chez eux, non ?
C'est très possible. C'est très possible, en effet. Bon, il y a dans certains pays le fait que la poésie est toujours en très grand honneur et quelqu'un qui est un bon poète, on n'ose pas trop, on n'ose pas trop lui le toucher parce qu'il est très populaire. Il y a des pays, au Moyen-Orient, la poésie est très... Et il y a de très très bons auteurs.
Oui, tu pourrais dire, parce que tu as commencé par citer Bonnefoy, mais tu présentes régulièrement des poètes sud-américains, et puis des poètes américains du Nord aussi, hein, oui. Lawrence Ferlinghetti par exemple, et puis des poètes du Moyen-Orient et du Maghreb, oui. Pour lesquels tu as une particulière affection.
Merci. Hein. J'aime beaucoup les auteurs qui ont beaucoup de personnalité, qui ont des idées, qui peuvent avoir des idées bien arrêtées. Je n'aime pas les auteurs qui sont intolérants. Je n'aime pas les auteurs qui sont...
Oui, ils peuvent être engagés, mais il faut respecter l'homme ou respecter les autres.
Oui, alors, de toute façon, la poésie, d'ailleurs, au fond, ça revient toujours à ceci. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Et en effet, quel est son rapport avec aussi bien son entourage, dans son environnement, tout ce qui concerne son engagement en tant qu'individu ? Et par rapport à quoi d'ailleurs ? Ça tourne toujours d'une façon ou l'autre autour de ça. Ça soulève beaucoup évidemment de revendications de liberté, beaucoup de protestations. Et effectivement. Ça passe aussi bien par les problèmes d'environnement que par autre chose.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Alors ça, oui, quelquefois vous choisissez aussi de faire des séances de poésie autour d'Amnesty International. Et là, oui. On avait donné la parole à tant de personnes.
Oui, oui. Ça dure, ça, je crois, dû le faire 7 ans. Et chaque séance représentait pendant 5 ans environ 25 textes. 25 textes choisis sur une bonne centaine. Hein. Et l'année d'après, c'était 25 autres différents choisis sur morceaux. Voilà. Maintenant, on fonctionne un peu différemment. On fonctionne sous la forme du Café Poésie. Mais le Café Poésie, il y a quand même une quinzaine de textes qui ne doivent pas avoir été lus, ou occasionnellement, une fois, ça peut arriver, mais en principe, qui n'ont jamais été lus. Donc, et qui sont choisis sur des centaines. C'est-à-dire que ça me fait parcourir le monde.
Ça vous fait parcourir le monde. Voilà, une manière aussi de parcourir le monde, en effet.
J'ai dit, cette année, bon, je vais démarrer sur Auschwitz, comme toujours. Je vais démarrer après ça la torture, parce que c'est un sujet qui me concerne d'une certaine façon. Et puis, je vais utiliser, et de plus en plus, je vais partir sur la possibilité de trouver des textes sur une actualité. Il y a des sujets qu'on ne peut pas trouver de poèmes. Vous n'avez pas beaucoup d'enfants, d'enfants mineurs en Colombie, ou qui travaillent sur un tas d'ordures à Manille, et qui écrivent un poème sur leur situation, hein. Bon, et puis que d'autres écrivent des poèmes là-dessus, c'est jamais qu'ils y mettent ce qu'ils veulent. Mais j'ai des sujets que je peux difficilement aborder. Par contre, en m'appuyant sur l'actualité, je rentre cette année sur la Turquie, excellent texte, de Nazım Hikmet d'ailleurs. Bon, ah oui. C'est toujours lui. Même maintenant, c'est toujours, oui. Sur la Syrie, bien entendu, sur les migrants en général, François Taillandier, le chaos des fatwas, cette jeune femme saoudienne qui écrit de la poésie depuis qu'elle était gamine, à l'insu de sa famille, qui s'est mariée avec un poète, qui a participé à un concours à Abu Dhabi. Le mari l'a accepté de la laisser sortir. Elle est allée en burqa à Abu Dhabi lire des poèmes. Elle a été primée, première femme, troisième du concours et première femme, reçu un prix à Locarno. Elle n'avait que le voile sur la tête et elle est jolie. Bon, tout ça, c'est très gentil. Il manque le principal, c'est que son poème, ça s'appelle « Chaos of Fatwas », autrement dit « Le chaos des fatwas ». Et ça fait le tour de... quasiment le tour du monde. C'est violent, hein. Voilà, et ben ça, j'ai ça. J'ai ça, j'ai d'excellents textes sur l'Iran aussi.
Ah oui, puis tu avais aussi, cette année-là... citer un poème de Taslima Nasrin.
Taslima Nasrin, oui, il y a toujours Taslima Nasrin.
Tu veux pas que j'en lise un petit morceau?
Ah, mais je t'en prie, là. Oui. Ah, ben, je t'en prie.
Oui, oui. Ça s'appelle « La femme qui casse les briques ». La femme qui casse les briques assise sur un trottoir. La femme au sari rouge casse les briques sous le soleil brûlant. La femme couleur de bronze casse les briques. À 21 ans, elle en paraît plus de 40, et 7 enfants l'attendent là-bas, à la maison. La femme casse les briques toute la journée. En échange de quoi, elle recevra 10 tacas, pas un de plus. 10 tacas ne suffisent pas à la nourrir, ni elle, ni les 7 autres. Pourtant, jour après jour, la femme casse les briques. L'homme, assis près d'elle, casse aussi les briques, abrité sous une ombrelle. Il touche 20 tacas par jour. 20 par jour, parce que c'est un homme. La femme a un rêve. Elle rêve d'avoir une ombrelle. Un autre de ses rêves serait, par un beau matin, de devenir un homme. 20 pour les hommes, le double pour les hommes. Elle attend que son rêve se réalise, mais rien ne la fait devenir un homme. Rien ne lui fait avoir une ombrelle, pas même une ombrelle déglinguée. On construit de nouvelles routes et d'immenses tours avec les briques qu'elle a cassées. Mais le toit de sa maison s'est envolé avec la tempête l'an dernier. Depuis, l'eau goutte à travers une tenture. Elle meurt d'envie d'acheter un toit en tôle. Alors, elle hurle dans tout le voisinage. Les gens s'esclavent. Oh là là ! Disent qu'il lui faudrait de l'huile pour les cheveux, de la poudre pour le visage. Les 7 enfants doivent être nourris. La peau de la femme s'assombrit de jour en jour. Ses doigts deviennent durs comme des briques. La femme elle-même devient une brique, plus dure que les briques. Le marteau peut casser une brique, mais ne peut pas casser la femme. Rien, ni la chaleur, ni le ventre vide, ni le regret de ne pas avoir un toit en tôle, rien ne peut la briser.
C'est sûrement le texte le plus connu de Taslima Nasrin. Elle avait écrit un très bon texte, aussi un très bon poème aussi, après cet effondrement d'un immeuble où il y a eu...
Le Rana Plaza, au Bangladesh. Oui.
Et elle avait écrit un poème, Les filles de la fabrique. Ou alors, elle a bien sûr écrit un poème sur le vieux mari.
Eh bien, vous avez entendu un écho de ces poèmes et peut-être aurez-vous envie d'aller au prochain Café Poésie.
Radio Grand Ciel.
Alors, nous avons évoqué l'ambiance, les lectures, le choix des auteurs. Comment ça se passe? Parce que pour faire venir aussi d'autres personnes qui lisent des textes, qui présentent des textes.
Oui, ben c'est ouvert, c'est libre, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Il y a
en général, sauf au tout début, en général, il y a entre 20 et 25 personnes qui ne sont pas forcément les mêmes, parce qu'il y a toujours des gens qui sont indisponibles, etc. On peut dire que ça tourne autour de 40 aficionados. Mais on a 20 ou 25, on a dépassé 30 avec le bilingue sur Darwish. On était 32. Et on était 30 pour le dernier Amnesty International. Et on était 110.
Oui, 110.
Il y a le fait que c'était un truc de Textes et Rêves.
Oui.
Et que Textes et Rêves a fait sa propre publicité aussi. Alors mes amis à moi sont venus, pas tous d'ailleurs. Mais ben, j'ai beaucoup d'amis qui étaient là, mais il y a aussi beaucoup de gens que je ne connais pas qui sont venus avec
Textes et Rêves.
En parlant de
la caravane des
la
poètes,
caravane puis, des oui, poètes oui, eh bien, ça, c'est, je crois, un témoignage fort de l'importance de cette action poésie au cercle. Tous les ans, la caravane des poètes démarre la saison au mois de mars en organisant un après-midi au cercle. L'après-midi, alors là, ça le comble à chaque fois parce que Marie Poumara présente à chaque fois une sélection de poèmes qui est vraiment délicieuse, interprétée par elle et puis
Pauline Maharot
et Mademoiselle Autessier, enfin, avec aussi des accompagnements musicaux. Mais en même temps, elle présente des élèves qu'elle fait travailler, des enfants et des adultes. Et alors là, c'est tout à fait formidable. Là, on voit que quelqu'un qui y croit arrive à faire sentir aux enfants des choses très subtiles. Et c'est toujours très agréable de voir les enfants jouer les poèmes qu'elle a choisis.
Et en plus, ils ont l'air très contents.
Ah, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ça me fait penser à l'émission de Jamel Comedy Kid sur Canal Plus du dimanche. C'est sensationnel. Des gamins de 6 à 10 ans qui font des sketchs. Mais alors, ils vivent. Hein. C'est tout à fait.
Donc ça, c'est un autre temps qui se passe aussi au Cercle Laïque, cette présentation.
Oui, voilà, c'est le travail de
Marie Poumara.
De Marie Poumara, de Textes et Rêves, hein, mais qui a lieu au Cercle. Marie est très contente que ça ait lieu là, hein, parce que, honnêtement, elle a, je pense, une conception très proche de la tienne.
Oui,
hein.
Oui.
C'est le choix des œuvres qu'elle présente.
Et ça s'est fait par pas avec elle, mais par Henri Ronce, qui au début faisait un café poésie en ville, et qui finalement, ça ne lui convenait pas. Quoi. Et il faut pas dire que Madeleine et moi sommes administrateurs à Textes et Rêves. Et comme je lui ai assisté à Textes et Rêves, je lui ai dit, bah, écoutez Henri, on peut peut-être faire ça au cercle. Voilà.
Oui. Ah, donc il y a aussi cette activité du... Et après, Textes et Rêves tourne un peu dans les écoles.
Oh bah, c'est un travail caravane formidable. Hein. Oui. Là, moi, je rends hommage à la ténacité et au talent de Marie Poumara et de ses amis comédiens. C'est vraiment un travail d'initiation dont la presse rencontre régulièrement, ouais, et qui montre à quel point cette action...
En particulier, elle fait un excellent travail dans les collèges en accord avec les profs et sur le programme de la saison. Quoi.
Radio Grand Ciel.
Le temps qui reste, là, il y a quelques minutes simplement, vous pourriez peut-être nous lire un de vos poèmes favoris.
Oui. À peine né, et peut-être même dès avant, encordé à de solides principes, des crampons dans la paroi friable de la vie et le vertige d'exister, d'avancer, de durer. Au goutte à goutte, l'héritage, le comme il faut, comme il ne faut pas. Le voilà ce qui t'arrivera si tu ou si tu ne pas. Et méfie-toi, ces gens-là, c'est plein d'arêtes. Sur le visage de tes dieux domestiques, tu apprendras à ressentir soupçons, crispations, désapprobations. C'est de toi qu'il s'agit, vilain garçon, qui fait de la peine à ses parents et aux parents de leurs parents et à tous ceux à qui tu dois la clé des vérités consacrées. Il n'est de bon sens que de bon sang au-dessus des fumerolles annonciatrices des grands chambardements nouvelles normes, toi, tu oscilles au bout de ta corde de bonne habitude. Et tes gardiens, tes voisins, chaque jour, ils vérifient le bon état de ton corset d'interdit. À chaque manquement, piqûre de rappel pour te reconduire dans les ornières de tes ancêtres. Aux équinoxes, qui sont des étapes dérangées, dérangeantes. La masse informe de l'héritage, il la caresse du doigt, la réchauffe à la flamme de leur certitude, la pétrisse. Bientôt, de bronze ou de granit, sur la grande place, entre l'église et la mairie, elle se dressera avec dans ses bras, blonde comme il se doit, sa fille, la pensée unique. À ses pieds, en lettres dorées sur une stèle de faux marbre, à la mémoire collective, une et indivisible, les tous pareils reconnaissants. Bientôt, les nous qu'on est dit si pour eux, y déposeront des gerbes, arrangeront le bon peuple, et dans un grand élan identitaire, la Madelon descendra serrer les mains, embrasser les enfants. Avec orgueil, les tous pareils, les nous qu'on ne dit si pas eux, leur drapeau frissonnera dans le ciel de leur lucarne. Tiens-toi donc droit, mon garçon, et si tu portes encore sur toi l'odeur du qu'en dira-t-on, si tu n'as pas laissé s'éteindre les braises de leurs préjugés, si tu ne transpires pas une sueur différente de la leur, alors les nous d'abord, les nous qu'on était là avant eux, voteront tous pour toi.
Eh bien, merci. Voilà un écho de cette poésie un peu dérangeante et qui amène non pas la pensée unique, mais la pensée tout court. Merci. Pour conclure, la prochaine édition des Cafés Poésie, c'est...
C'est demain.
Bon, alors là, on n'en parle pas.
C'est quand, René, la séance,
alors,
la séance
il, y avec... il y a un Café Poésie chez Malvoyant en mars, donc, puisqu'il est décalé, je n'ai pas la date. Il y a le 11 mars, Jean-Pierre le disait tout à l'heure, c'est pas vraiment un Café Poésie, hein.
Café Poésie à l'Arsenal,
c'est
avec
à l'Arsenal.
Rachid Kimoun.
Et il y a le 19 mai à 17h, comme d'habitude, Café Poésie bilingue, Anna Akhmatova, avec la participation de Marina Rive.
Et le 18 mars, la caravane des poètes.
Et bien voilà, quelques rendez-vous offerts à tous pour rencontrer les poètes et pratiquer la poésie ou l'écouter. Bonne semaine à tous, au revoir.